Je vais commencer la séance de lecture. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Laurence Canto, je suis professeure de français dans un collège à Montbéjour, plus exactement. Et j'ai des élèves qui ont entre 11 et 15 ans. Et notamment, j'ai eu des quatrièmes, ça fait 3 ans que je n'en ai pas, mais j'ai beaucoup travaillé sur les nouvelles fantastiques. Donc j'avais remarqué qu'ils aimaient bien ça, les élèves. Donc je m'étais dit, tiens, je pourrais peut-être aussi, en parallèle avec les nouvelles que nous étudions, principalement des nouvelles de Maupassant, mais d'autres aussi, des garçons aussi. Et je me suis dit, tiens, je pourrais écrire peut-être des nouvelles. Et donc, je me suis un peu lancée comme ça. Alors voilà. Aujourd'hui, je voudrais quand même vous lire quelques nouvelles de Jacques Stamberg, qui est un grand nouvelliste français, donc, du XXe siècle. Il a écrit plus de 1000 nouvelles. Et moi, j'aime bien son genre, son style, parce que c'est un style un peu absurde, un peu noir. Et il y a une nouvelle qui s'intitule « Joyeux Noël », son recueil des contes glacés. Donc elle colle bien avec l'époque. Et vous allez voir, c'est assez curieux. C'est pas un joyeux Noël.
C'est
joyeux
que ça.
Voilà, c'est ça. C'est joyeux que ça. Alors je commence, donc Jacques Stamberg. Il faisait assez chaud ce jour-là sur la côte est de la mer supérieure d'Ifrage, petite planète située dans la banlieue de Crou. Les deux Ifragiens, envoyés en mission, se retrouvèrent à l'aube, au bar du départ. « On va chez les Terriens, » dit l'un des navigateurs. « Ah bon ? Ceux de la planète Terreur ?»« La Terre, ça s'appelle. »« Ah oui, cette chose toute verte ? J'y étais l'an passé au mois d'août. On s'y ennuie et c'est mal fréquenté. Rien que des ouvriers. »« Ce sera différent cette fois. Il s'agit de tourner un documentaire pour une riche dilettante. » Sur la Noël. Qu'est-ce que c'est ça? Un animal? Non, il paraît que c'est une sorte de fête qui revient chaque année. Ça doit être monotone. Ils ont l'habitude du monotone là-bas. Soit, allons-y pour la Noël, ça ou autre chose. Ils y allèrent, puisque c'était leur métier. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent sur Terre, dans une grande ville d'un continent appelé l'Europe. Comme leur caméra ne prenait pas plus de place qu'une boîte d'allumettes, il leur fut facile de capter les images sans se faire remarquer. En revanche, il leur fut plus difficile de garder leur sérieux devant les différents rites de cette soirée du 24 décembre. Les petits sapins constellés d'ornements absurdes, les crèches plantées dans les vitrines au milieu des chaussures et des saucissons, la beuverie qui suivait la solennité saugrenue de la messe de minuit, tout cela amusa beaucoup les Ifragiens. Pendant le trajet du retour, les navigateurs regardèrent plusieurs fois le film qu'ils avaient tourné et le comique vulgaire, mais agressif, de ce document leur fit complètement oublier la monotonie du voyage. Ils riaient encore quand ils débarquèrent sur Ifrage. « C'est réussi ?» leur demanda le directeur de la firme qui avait commandé le documentaire. « Irrésistible !» Le directeur téléphona alors à son client pour lui dire que le documentaire demandé était prêt. Sans s'inquiéter du prix ou de la qualité du film, le client demanda la livraison immédiate du document en question. Son anxiété se changea en amusement dès les premières images, amusement qui devint bientôt une hilarité continue, et combien justifiée. Quels acteurs inconscients ces terriens ! Quel sens aigu du grotesque ! Quel génie du ridicule ! Toutes les images, toutes les séquences du film, les religieuses en particulier, en témoignaient. Cela dépassait encore ce qu'ils avaient tenté d'imaginer et même les souvenirs lointains qu'ils avaient gardés de cette planète. Et son séjour là-bas avait donc eu de telles répercussions? Cela était encore plus risible que tout le reste. Bref, tout en riant, il pensa qu'il avait eu bien de la chance de n'avoir vécu que 33 ans sur Terre. Il n'y avait rien à regretter. Et sans plus y penser, Jésus le Nazaréen alla s'habiller parce que sa femme voulait voir un film historique qui passait dans le quartier au Roxy, près des galeries de l'automne. Voilà. Ça, c'est l'esprit de Jacques Stamberg. Hein. C'est pas l'esprit de Noël, mais c'est aussi l'esprit de Noël. Alors, moi, je vais vous lire une nouvelle que j'ai écrite qui s'intitule La Désingue. Alors la désingue, je ne vous dis pas ce que c'est, vous allez essayer de deviner. Vous allez voir, j'ai joué un peu avec les mots. Ça se passe à Fos, hein, parce que je connais bien Fos, mes grands-parents ont vécu là-bas, on a toujours la maison Fos à côté de Montjou, à côté de l'Espagne, à la frontière. Sans faire de bruit, il gagne sa vie, le roi Telet. Rien de tel qu'un petit poème nippon pour illuminer le quotidien d'un honnête hôtelier, se dit Gilbert tout en lustrant amoureusement le zin du bar familial datant de 5 générations. Il avait plongé dans le haïku comme on plonge les chopes de bière dans la vague d'eau claire, avec simplicité et efficacité, en évitant la casse comme la somnolence. D'une certaine manière, il devait beaucoup à Arsène, son camarade de lutte, expatrié un temps au pays du soleil levant, qui lui avait fait découvrir la poésie de l'instant. Ce jour-là, c'était soleil, un petit soleil du mois d'avril, venu tardivement frapper aux vitres de l'hôtel-restaurant des Deux Nations, en caressant les couleurs fanées des nappes à carreaux rouges et blancs et les fils de soie d'une araignée qui se balance légèrement sous l'effet d'un courant d'air. Gilbert sortit sur le perron, histoire de tâter un peu l'air frais et de profiter du calme désertique imposé par la déviation en secouant le balai à poussière. Fini le temps où les poids lourds lançaient comme des mastodontes fumant sans filtre ébranlaient les façades, noircissaient les rideaux en dentelle des grands-mères qui pouvaient en prime tiraient leur révérence dans un puissant souffle boisé sur les trois chaussées principales. Un carrefour giratoire faisait office désormais de frontière pour faire tourner le commerce à ramener les cartouches de cigarettes et de tapas à volonté dans des bodegas bon marché qui n'égaleraient bien sûr jamais en charme décalé l'établissement de Gilbert, témoin de l'histoire passée. Il aperçut soudain la Toyota passée au rose, cuisse de neuf et rouge, c'est la couleur rose, qui traversait au ralenti le pont enjambant la Garonne, un rythme qui ne correspondait guère au bouillon métallo du magnésium, 15 ans plus tôt licencié comme tant d'autres de l'ancienne usine de Péchiné à Marignac, dans un climat de grève quasi insurrectionnelle, pour reprendre les journaux de l'époque. Avec l'argent du licenciement, Arsène avait mis 10 000 km entre l'usine morte et sa nouvelle vie, tandis que Gilbert avait sagement choisi de reprendre l'hôtel familial en espérant aussi faire revivre un peu le village de Fos. L'étonnement de Gilbert se mua en stupeur quand il le vit descendre, ave de fatigue de sa monture ronflante, après une traversée ibérique, les cheveux blancs sans poivre, très amaigris, pliant encore sous le fait de quelque affaire laissée au Japon. Là, un coup lui vint à l'esprit. Un vieux chien en tête de cortège, on va visiter les tombes. Mais voilà, qu'est-ce de résonance poétique, s'étonna Gilbert. L'apparition ensuite de Kiku, empêtrée dans un moment dans les liens de son kimono rouge et de la ceinture de sécurité du passé au rose, dessina un sourire amusé sur ses lèvres. Était-il venu dans l'intention de participer au festival des créations télévisuelles de Duchamp? L'avoir trottiné derrière son Arsène à pas menus, chaussettes roses et sandales en bois de notre temps, le chignon en oblique, piqué d'oiseaux, coloré, lui donnait l'air d'abriter une volière. Fini de se les transporter vers eux dans un rire irrépressible, les bras grands ouverts au soleil levant. Ce matin-là, alors notre histoire, en ouvrant les portes du bâtiment consacré aux cures des voies respiratoires, l'agent thermal, Claudine Rossignol, regarda avec tristesse la statue du baron d'Étigny qui tournait le dos, dont elle imaginait les rêves de grandeur floués, écrasés par la désertification des provinces. Elle attendait l'arrivée des premiers curistes, en faisant mentalement le bilan des maigres rénovations effectuées pendant l'hiver, histoire de se projeter un peu dans la saison, de les conduire vers une hausse tendancielle de la fréquentation thermale, selon la direction. Il n'y avait pas que l'eau qui sentait le soufre dans l'antique station thermale de Luchon. Elle en était là de ses réflexions quand le premier curiste arriva dans le hall. Elle reconnut aisément le vieil asiatique, distingué, arrivé la veille, sans doute japonais, car son nom lui évoquait celui de personnages imaginaires rencontrés dans des films. Il portait un costume sombre, sans cravate, des souliers de ville brillants qui semblaient faire partie du plan pour renouer avec le lustre d'antan. Après quelques échanges cordiaux, ponctués par des sifflements respiratoires du malade, puis quelques consignes à visée thérapeutique, l'homme la salua en baissant la tête légèrement. Traversée par de nouvelles pensées, elle ne vit pas son image emprisonnée dans l'éclat crocodilien de l'œil fendu qui s'éloignait lentement en une avalanche de quintes de toux. Un sentiment de révolte la submergea subitement.
Le sens du sacrifice pour améliorer les statistiques va-t-il jusqu'à admettre des curistes potentiellement contagieux dans l'établissement? Le roman va aller plus que la grand-mère. Et là, on revient vers Gilbert, qui descendit les quatre marches du perron pour serrer sa vieille branche d'amis. Eh, ça fait un bail, hein? 15 ans, oui. J'aurais jamais imaginé qu'elle me manquerait autant. Arsène, en pilotant sur lui-même, balaya d'un mouvement de la tête les Pyrénées qui formaient comme un écrin vert protecteur autour d'eux. Je te présente Kiku, mon petit rayon de soleil. Elle comprend et parle assez bien notre langue, tu verras. Ah oui, elle a tenu absolument à se présenter dans ses habits de scène. L'élan de Gilbert pour l'embrasser fut rapidement arrêté par le salut, tout en courtoisie distante de la vieille chat, qui le gratifia d'un gracieux sourire jusqu'au bord des yeux, en ajoutant d'une voix douce mais ferme « Merci à vous de recevoir nous !» Le trouble de Gilbert, sensible au charme de notre temps, n'échappa à la dame Butterfly qui dominait la solitude de l'homme coincé dans un couloir montagneux. « Je vous fais visiter la maison ?»« Oh, je préférerais mettre d'abord la voiture à l'abri si cela ne te dérange pas. Tu as un garage, non ?»« Une grange faiblement sécurisée, assez grande pour contenir un tracteur, oui. » Gilbert n'avait pas terminé sa phrase que déjà Arsène lui tournait le dos pour rejoindre son véhicule. Il fut interpellé un instant par ce curieux regain d'énergie. Quelle urgence y avait-il donc à vouloir abriter cette vieille voiture? Il aida ensuite le couple à installer ses affaires à l'étage dans la chambre rouge d'inspiration sévillane avec la citation « Todo es posible » stickée à l'entrée. Lorsqu'Arsène réapparut, échevelé, la voussure du dos accentuée par le réveil de douleur chronique, pour lui demander de l'aider à porter le zin de Kiku, il vit là encore une nouvelle fantaisie de l'ancien artiste métallo-déchéticien, en d'autres temps créateur compulsif de séries de marmottes en fer soudé. Quand il découvrit le zin en question, une sorte d'instrument de musique à cordes, en forme de table, il se sentit soulagé tout en saisissant la touche de zen qu'avait dû ajouter la musicienne des traditions dans la vie agitée de son ami. Ils se retrouvèrent enfin autour d'une chope de bière niçoise, pendant que la belle zingueuse se démaquille, ce qui devait prendre un certain temps vu l'ampleur de la tâche. « Alors, que penses-tu de la rénovation de mon hôtel ?»« Totalement bluffant, exactement comme avant. J'ai l'impression à chaque instant que je vais voir apparaître Mémé et Jeannette, avec nos bols de chocolat bien chauds. Et le père Lafont, tu te souviens ?»« Oui, toujours un verre dans le nez. » Accoudé au comptoir jusqu'à point d'heure. Comme si le ciel au-dessus de la tête d'Arsène était devenu tout à coup nuageux ou orageux, il se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux bridés par le soleil de printemps, puis se redressa, frémissant de colère. « Tu as bien employé les indemnités que nous ont laissées ces fumiers pour se débarrasser de nous. L'ennui, c'est quand tu penses en avoir définitivement terminé à l'autre bout du monde, il y en a d'autres qui apparaissent pour te gâcher la vie. » Le profit n'a pas de frontières, je te le dis, c'est une pandémie. Gilbert se sentit soudain mal à l'aise, déphasé. Il avait passé l'âge des réactions en chaîne. Loin des révoltes idéologiques, le sens de ses actions se situe maintenant dans la sphère tranquille de la zénitude qu'il espérait partager avec son ami. Tu m'as parlé d'un commerce au Japon, c'est bien ça? Oui, nous avons quitté Tokyo pour aller vivre à Nami, où la famille de Kiku avait des rizières avant que tout disparaisse. Fukushima ne leur a rien laissé. D'autres fumiers m'ont tout pris là-bas aussi. La santé, la vie, tout. Tout, tu entends bien? Je vendais des téléphones portables dans l'avenue principale qui ressemble aujourd'hui à Fort Alamo après la bataille. Mais pourquoi ces cartes postales entre nous pendant toutes ces années? Tu ne m'as jamais laissé mon ami te joindre. C'est sans doute mon côté samouraï des temps modernes. Vendre des téléphones portables, c'est moins pénible que de rester au plancher de la forge pendant 8 heures. La tête et les mains qui bouillonnent dans l'autocuiseur. Mais à la fin, quand tu fais le bilan de ta journée, tes actions, il ne reste que du vide. Crois-moi, on est seul juge de ses actes comme on doit être aussi seul à décider de sa mort. Il joignit alors le geste à la parole en mimant le mouvement lent du bras droit du seppuku du samouraï. Gilbert pensa aussitôt avec soulagement qu'il s'était depuis longtemps débarrassé de la collection familiale de couteaux à débrousser le cochon. Il laissa alors œuvrer la paix du silence de morte saison. Contre toute attente, la soirée se passa pour Gilbert dans un climat de rêve musico-onirique, avec cette douce sensation de flotter entre les tables, de quelques clients venus dîner par hasard au son harmonieux du zin de Kiku. le concert improvisé atteint des sommets sur l'air que tout le monde associa à une marque de bain moussant dans une publicité des années 80. Ça faisait tan 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 tan. Gilbert, totalement transporté, se mit à caresser une éponge distraite sur le corps de la jeune femme qui posait nue dans la baignoire transparente la poitrine sainte d'un voile de mousse. Il reprit conscience un peu honteux au moment où il reconnut les traits fins de Kikou dans le sourire complice de la dame. Puis il jeta l'éponge en l'évier et rejoint Arsène, installé à une table entre une bouteille de Madiran et la lecture attentive d'un article de la Dépêche du Midi. Il lut par-dessus son épaule qu'il était question de la présence d'un curiste de marque au terme de Duchamp, un certain Chirio Kuroketa. L'homme, un important industriel, était en pourparlers avec EDF pour faire face à la crise nucléaire sur le site de Fukushima. Arsène replia son journal et même mauvais. Déjà passablement gris, il entreprit Gilbert au sujet du thème musical que le commun des mortels, selon lui, associa à une vulgaire marque de bain moussant. Il se mit dans la foulée à fulminer contre l'acte mercantile de ces capitalistes à tout craint qui dévoyaient bassement la portée symbolique des œuvres d'art pour faire du profit. Il lui raconta que cet air magique intitulé Kikushio Tomoshimashu, c'était l'histoire de Kiku, qui, comme son héroïne, avait fini un soir de brume en larmes sur un trottoir d'Akazaka, dans le quartier des geishas à Tokyo, où elle avait appris son métier auprès d'une matrone. La chanson ne racontait pas que lui, Arsène, l'avait sauvé des griffes de son parrain, le saccageur qui avait brisé son zinc et ses rêves d'artiste libre. Le parrain en question n'était autre que Itsune Masutaka, l'un des trois grands responsables de la TEPCO, et en même temps de la catastrophe nucléaire qui venait d'anéantir une grande partie du Japon. Quand il m'a demandé, maintenant c'est Gilbert qui parle, hein, quand il m'a demandé le lendemain matin de bonne heure les clés du berlingot pour aller chercher de lui le moteur, je ne me doutais encore de rien. C'est en fin de matinée, lorsque les gendarmes m'ont montré sa tête de recul de justice sur la photo, que j'ai compris qu'il avait fait quelque chose de grave. Et là, l'instinct de solidarité, je ne sais pas, je l'avoue, j'ai menti. J'ai pensé à Kikou, endormie, bien heureuse au-dessus de nous. Je me suis réfugiée derrière le comptoir pour qu'il n'ait pas le zinc dans l'angle de vision, en leur racontant que j'avais coupé les ponts depuis longtemps avec lui, mais que bien sûr, je les tenais au courant. Ils m'ont répondu que j'avais aussi intérêt à collaborer avec la police japonaise, qui soupçonnait Arsène d'être responsable de l'assassinat de deux responsables de l'entreprise TEPCO, équivalent donc d'EDF au Japon. Les deux hommes, nommés Itsune Masutaka et Kasai Tumo, avaient été retrouvés étranglés avec des fils de nylon tressés dans la ville de Tokyo, à 2 ans d'intervalle. Chirio Kuroketa, le troisième responsable, était en danger. Là-dessus, ils tournèrent les talons, me laissant un instant pantois. Je me précipitai ensuite pour dissimuler le zinc, et là, au stupeur, je le vis nu. Quelqu'un lui avait enlevé les cordes. Et là, on revient sur Claudine Rossinol, donc la gens qui travaille dans le champ, au centre de cure thermale. Désœuvrée, Claudine Rossinol songeait à une reconversion professionnelle dans les métiers du bois quand elle vit débouler le berlingot bleu citoyen dans l'entrée. Après le japonais courtois, elle allait devoir faire face à l'autochtone Mali Grossi. Vive la diversité culturelle. À son grand étonnement, l'individu en question se montra fort courtois, visiblement préoccupé et au moins aussi décati que le japonais auquel il semblait avoir emprunté un je ne sais quoi d'asiatique dans le regard. La cure ne pouvait que leur être profitable à tous deux. En se penchant pour ôter ses chaussures dans le vestiaire, Chirio Kuroketa entendit l'air bien connu de Kikushio, l'équivalent pour un japonais expatrié de la chanson Douce France. Pour un français dans la même situation, une première fois, il l'entendit puis une seconde fois. À la troisième, il se leva, téléguidé par les notes cristallines du zinc, il vit le portable vibrant sur le banc, et quand il se pencha, il sentit qu'on le saisissait par derrière, qu'un homme lui en serrait le cou avec ses cordes de nylon. Trop faible pour crier, il se laissa aller. Pour lui, le mal était déjà fait depuis bien longtemps, de toute façon. Quelques secondes plus tard, le hurlement de Claudine Rossinol, alerté par des bruits étranges, se répercuta sur les murs de l'établissement. En découvrant Arsène, immobile près du corps sans vie de Chirio Kuroketa, il déclara froidement, j'ai dézingué le dernier. Et voilà, c'est fini. Henri Montaigne. Alors, je vais vous raconter les chats, ça va changer. Donc on est toujours avec Jacques Semper. Et vous aimez les chats?
Oui.
Tout le monde aime les chats, normalement.
Pas la poêle.
Ah ben, alors.
C'est toujours de manger.
Ah, on est toujours. Ah, tout. C'est pas bien ça. Les esclaves. C'est le titre de la nouvelle de Semper. Au commencement, Dieu créa le chat à son image. Et bien entendu, il trouva que c'était bien. Et c'était bien d'ailleurs. Mais le chat était paresseux, il ne voulait rien faire. Alors plus tard, après quelques millénaires, Dieu créa l'homme, uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d'esclave jusqu'à la fin des temps. Au chat, il avait donné l'indolence et la lucidité. À l'homme, il donna la névrose, le don du bricolage et la passion du travail. L'homme s'en donna à cœur joie. Au cours des siècles, il édifia toute une civilisation basée sur l'invention, la production et la consommation intensive. Civilisation qui n'avait en réalité qu'un seul but secret, offrir au chat le confort, le gîte et le couvert. C'est dire que l'homme inventa des milliers d'objets inutiles, généralement absurdes, tout cela pour produire parallèlement les quelques objets indispensables au bien-être du chat. Le radiateur, le coussin, le bol, le plat de sciure, le pêcheur breton, le tapis, la moquette, le panier d'osier, et peut-être aussi la radio, puisque les chats aiment bien la musique. Mais de tout cela, les hommes ne savent rien, à leur souhait, béni soit-il, et ils croient l'être. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes des chats. J'en ai d'autres sur les chapeaux de Semper. On s'était si souvent demandé, et depuis longtemps, à quoi les chats pouvaient bien penser. Tapis au plus profond de leur solitude, enroulés autour de leur chaleur, comme rejetés dans une autre dimension, distants, méprisants, ils avaient l'air de penser, certes, mais à quoi? Les hommes ne l'apprirent qu'assez tard. Au 21e siècle seulement. Au début de ce siècle, en effet, on constata avec quelque étonnement que plus aucun chat ne miaulait. Les chats s'étaient tus. On n'en fit pas un drame. En fin de compte, les chats n'avaient jamais été tellement bavards. Sans doute n'avaient-ils vraiment plus rien à dire à présent. Puis plus tard, on releva un autre fait. Plus singulier celui-là, beaucoup plus singulier, les chats ne mouraient plus. Quelques-uns mouraient évidemment, par accident, écrasés par un véhicule, le plus souvent, ou emportés en bas âge par quelques maladies particulièrement pernicieuses. Mais les autres évitaient la mort, lui échappaient, comme si cette fatale échéance n'avait plus existé pour eux. Cette énigme, personne ne la perça jamais. Leur secret était simple pourtant. Les chats, depuis qu'ils étaient sur Terre, n'étaient jamais sortis de leur indolence. Natives pour accomplir comme les hommes mille petits tours savants. Ils n'avaient jamais rien construit, pas même leur niche. Ils avaient toujours laissé les hommes s'occuper de leur sort, leur procurer la nourriture, le confort et la chaleur artificielle. Eux, libérés de tout, avaient toujours vécu dans une sorte d'hibernation idéale, bien dosée, parfaitement mise au point, ne songeant qu'à mieux se concentrer, douillettement louvés dans leur bien-être. Les chats avaient donc eu beaucoup de temps pour penser. Ils avaient beaucoup pensé. Mais alors que les hommes pensaient à tort et à travers, au superflu de préférence, les chats, eux, n'avaient pensé qu'à l'essentiel, sans cesse, sans se laisser distraire. Ils n'avaient médité inlassablement au cours des siècles qu'un seul problème. Et à force d'y penser, ils l'avaient résolu. Je vais vous lire une dernière nouvelle à moi, c'est celui des Bouilles. Alors les Bouilles, c'est en référence, vous savez, aux inondations qui ont eu lieu à Saint-Béat en 2013. Et les Bouilles, c'est une légende, alors vous allez voir, toute ma nouvelle, ça s'est inspiré par les aides de 6e, à des références à la mythologie. Alors c'est des échanges de mails, donc c'est, vous allez voir, c'est Ariane qui communique avec Ondine. Donc, premier mail, le 1er juin 2013, puisque les inondations avaient eu lieu mi-juin, à peu près. Objet, donc, du mail, nouvelle de Saint-Béat. Chère Ariane, j'espère que tu vas bien depuis nos voeux du premier de l'an. L'été arrive, je t'imagine en pleine effervescence, houspillée par le chef en transe, parce que, comme chaque année que Dieu fait, vous n'êtes pas dans les clous pour la campagne publicitaire de l'été, la gris-chef. Mais en bonne Ariane, qui connaît son minotaure, je sais que tu vas encore une fois réussir à maîtriser le monstre. Tu noteras au passage que mes références sont devenues on ne peut plus littéraires depuis que tu as décidé de pallier mon inculture sur les mythes anciens en m'offrant à Noël ce magnifique livre dédié à la mythologie grecque et romaine. C'est bien simple, désormais chaque soir je ne m'endors plus sans avoir lu une histoire, ce qui me permet ensuite de méditer dans le noir en attendant Morphée. Je n'imaginais pas qu'un jour mon esprit cartésien, je ne dis pas carré parce que je crains les angles droits, aurait pu à ce point se délecter à la lecture de telles histoires et donner ainsi du sens au quotidien. Je ne vois plus vraiment les choses comme avant maintenant. Vraiment, Ariane, tu es une fille à suivre. D'ailleurs, tu es la seule que je regrette dans cette entreprise, la seule à être restée humaine jusqu'au bout, sans jouer le jeu hypocrite de la concurrence avec moi. Bon, il faut dire aussi qu'en termes de rentabilité, je ne pesais pas bien lourd. Que je ne devais pas à ce titre constituer un grand danger pour quiconque. Enfin, je ne regrette pas un seul instant d'avoir démissionné pour passer le concours de gendarme et donner un sens à ma vie d'éternel célibataire en misant sur le côté relationnel de ce métier au service des autres. Pour parler de relations humaines, je dois t'avouer que j'ai le pressentiment que ce premier poste dans le village de Saint-Béat ne va pas être des plus aisés. Je dirais même que j'ai ressenti une atmosphère montagneuse plus propice à la frilosité qu'à l'échange. Heureusement qu'à la caserne, la vie est adoucie par mon chef de brigade, Hector Loudet, qui s'est montré très chaleureux, voire protecteur à mon égard. Comme nous sommes voisins de palier, j'ai fait la connaissance de sa femme, Andrea, dont la bienveillance et le talent de pâtissière, experte en cannelé, lui ont attiré irrésistiblement toute ma sympathie. Elle ne semble pas s'ennuyer ici, puis il faut dire qu'elle a de quoi faire avec ses 3 enfants en bas âge, et son grand Hector de mari auquel elle vit visiblement une admiration sans bornes. Il n'empêche que le fait qu'il n'ait pas cessé de pleuvoir depuis mon arrivée, il y a 10 jours, renforcé par le manque de luminosité dans cette vallée, encaissée entre les montagnes pyrénéennes, me font l'effet à la nuit tombée de grands géants de marbre, me donne une étrange sensation de vertige par écrasement. Je passe mon temps à me couvrir, à me découvrir, oscillant entre des moments de grande curiosité où je me sens traversé par des tremblements, des bouffées de chaleur qui, à ce moment de vertige, me donnent le sentiment de me débattre entre surface et profondeur. J'ai pourtant un bilan de santé tout récent qui montre que j'appartiens à la catégorie des salariés de 40 ans bien portant. Je dois t'avouer que malgré tous mes efforts pour afficher un moral au beau fixe, ce qui me semble d'ailleurs la moindre des politesses égard à mes collègues, je rentre le soir dans mon appartement, lessivé par la déception que suscite en moi, au contraste entre le souvenir riant que j'avais de ce petit village de montagne, au toit d'ardoise brillant, et cet endroit sombrement délavé que je découvre, où certains habitants ne savent communiquer que par dépôt de plaintes interposées. Tu sais aussi que j'ai gardé de mon enfance dans l'Aude le goût pour les déambulations nocturnes, qui me portent invariablement vers les fontaines de jouvence, au bord desquelles j'aime m'asseoir, plonger la main tout en me laissant bercer par le son du flot cristallin. Ici, je ne trouve plus que des abreuvoirs qui me dégorgent bon lustral, je peux le croire, mais un flot continu qui me donne l'impression d'être l'œuvre d'une volonté maléfique qui chercherait à me noyer dans l'hiver. Si tu voyais le spectacle désolant de mon appartement, on dirait un grand séchoir improvisé ou peint de chaussettes, bonnet et pantalons humides, que je vais tourner au grand rythme, au gré d'un rythme hydrique lassant. Et comme je n'ai qu'un seul uniforme pour l'instant, je vis dans des vêtements constamment humides. Je me sens imbibée à l'excès, si bien que même la bière du vendredi soir, que nous partageons entre collègues, me laisse comme un goût saumâtre dans la bouche, jusqu'à l'envie de m'enfuir à la brasse de la vie. Pour clore le chapitre des réjouissances, je dois te parler d'un mauvais présage que j'ai découvert hier, sous la forme d'un crapaud étendu sur le dos près de la porte d'entrée de la caserne. Ce pauvre animal blafard semblait avoir été gonflé à l'hélium tant il m'a paru énorme. Mais ce n'était pas de l'air. J'ai pensé ensuite au cours de mon moment de méditation nocturne que cet animal avait trouvé son tombeau dans ce lieu hanté par un élément infernal, pourtant a priori favorable aux batraciens, mais qui, pour une raison que j'ignore encore, s'est finalement retourné contre lui au point de le noyer. Je sais que tout est relatif, les chimères également, mais là, vois-tu, ce crapaud que j'ai dû évacuer d'urgence sur une pelle m'a fait ressentir à quel point j'étais nécrophobe, ce que je n'avais pas mesuré au départ en endossant uniforme de gendarme, c'est bien dommage. Je l'ai déposé en tremblant au pied de la haie dans une flaque de boue, puis je me suis précipitée dans la salle de bain où je me suis essorée les cheveux en pleurant assise au bord de la baignoire. Je pensais enfin oublier son image en relisant le mythe de la caverne de Platon avant de m'endormir, mais ce fut peine perdue. Au cœur de la nuit, son image m'est réapparue de façon cauchemardesque, en me faisant vivre les derniers instants du crapaud devenu nécrophobe. Je me suis réveillée en nage au moment où j'ai réalisé que ce n'était pas lui, mais bien moi-même, qui me débattait en hurlant la tête emprisonnée sous les couvertures pour essayer de lui échapper. Pourtant, avant, je faisais partie des hydrophiles convaincus. J'avais toujours eu, comme on dit, des rapports apaisés avec elle. Et cela remonte au temps où il n'était encore qu'un fœtus, bien calé dans le confort ouaté du ventre maternel. Si bien que je ne l'aurais pas quitté pour la terre ferme si on m'avait laissé le choix. J'ai en mémoire également de merveilleux souvenirs d'elle plus tard, lors des séances hebdomadaires de natation, renversée sur le dos, les oreilles immergées ne recevant le monde que par des sons amortis, mes yeux suivant le fil coloré des lignes aériennes, comme des rubans de fête foraine. Je retrouvais alors ma sérénité perdue, mon corps en état d'apesanteur, levé contre elle, entouré et soutenu par cet élément harmonique dont je ressentais le caractère absolument essentiel à mon équilibre. Que s'est-il donc passé pour qu'elle devienne ainsi l'objet de tous mes tourments, tour à tour menaçante, inondante, intrusive, angoissante? Ces derniers temps, j'ai le sentiment accru que ma vie ne tient plus qu'à un fil, qui est le tien, ma chère Ariane, qui me permet de surnager au milieu de cette menace. La Garonne enfle de jour en jour, avec la fonte des neiges. Je crains que le pire ne soit à venir. Dans l'espoir d'avoir très bientôt de tes nouvelles, chère Ariane, Ondine. Alors elle m'écrit à nouveau Ondine à Ariane, 4 jours plus tard, c'est le 5 juin 2013. Chère Ariane, entre-temps, Ariane lui a répondu. Tes mots réconfortants m'ont mis du baume au cœur, mais je préfère que tu ne viennes pas, que tu ne prennes pas le risque de venir jusqu'ici, du moins pour l'instant. Les routes inondées depuis 2 jours rendent la circulation quasiment impossible à partir de Saint-Gaudens. Il ne manquerait plus qu'elle s'entraîne à toi, je ne le supporterai pas. J'ai passé 2 jours terribles dans cette cuvette de marbre qui m'ont laissé tétanisée, vaincue par cette terreur dont l'imagination perfide semble ne connaître aucune limite. J'ai attendu désespérément un arc-en-ciel dans la vallée pour éloigner le démon, mais mes prières sont restées comme autant de coups d'épée dont elle se rit forcément. J'ai la conviction de plus en plus triste qu'elle a transformé la Garonne à l'image du Styx, en affluent de la haine et de la mort. Avant-hier, nous sommes allés avec Hector Moudet repêcher le cadavre d'un pauvre homme dont le corps, ou du moins ce qu'il en restait, était entravé par des branches et des troncs d'arbres immenses. Tu ne peux pas imaginer la frayeur que j'ai ressentie en me débattant au milieu de ce fleuve en furie pour tenter de décrocher cet homme dont j'ai immédiatement associé l'image à celle de mon crapaud sans sépulture. Comme lui, je l'ai trouvé blanc, boursouflé, anonyme sous le déluge. C'est pourquoi je lui ai rapidement donné un nom, histoire de conjurer le malheur que semble vouloir propager indéfiniment cet ignoble élément. Je l'ai appelé Gribouille, en référence à la légende que j'ai trouvée dans ton livre. Qui raconte l'histoire de cet homme qui s'est jeté un jour la tête la première dans un fleuve par crainte de la pluie. Cet homme-là fut-il aussi sot que le gribouille de la légende pour se jeter ainsi dans la Garonne? Honnêtement, je ne pense pas. Je crois plutôt qu'il a voulu la fuir de toutes ses forces jusqu'à en mourir. Elle l'a poussé à bout, c'est certain, aussi sûrement qu'elle me rend siphonnée en me faisant vivre ainsi au 4e sous-sol de la raison. Mais je crains fort que nous soyons, dans les heures à venir, de nombreux gribouilles à vouloir passer par-dessus le pont de la Garonne si rien ne vient s'opposer à ce fléau. Enfin, chère Ariane, loin de moi l'idée de vouloir t'effrayer. Elle ne réussira pas à vaincre mes élans de combativité, crois-moi. Je suis actuellement en train de mener en douce ma propre enquête sur le ou les mobiles de cette meurtrière en série qui va continuer sûrement son œuvre mortifère dans ce déluge de catastrophes. Et on ne peut pas dire qu'elle me facilite la tâche, la garce. La rivière en crue n'est plus qu'une vouivre qu'elle manipule comme un immense aigu où sont engloutis tous les éléments de l'enquête qui seraient susceptibles de nous éclairer sur les circonstances de la mort de notre pauvre gribouille. En pataugeant ce matin au milieu des gens et des tifas, les rescapés de sa haine farouche, je me suis prise à rêver que je me transformais comme Isis en une hirondelle alerte survolant le fleuve pour trouver des pièces à conviction qui me permettraient de la démasquer rapidement. Je me refuse de jouer les gribouilles face à elle. J'ai parfaitement compris son jeu. Elle cherche à nous punir à travers cette démonstration de force. Mais de quoi exactement? Quel mal lui avons-nous fait? C'est toute la question qui reste sans réponse. Si on n'imagine pas l'arche de Noé sans Dieu. Car le problème se pose précisément, Dieu n'intervient plus pour l'instrumentaliser contre les hommes qui ne l'entendent pas. Ne voyant rien venir, elle a donc décidé d'agir selon ses propres lois immorales, histoire de montrer un peu aux hommes de quelle voie elle ne se chauffe pas. As-tu remarqué, chère Ariane, les propos qui reviennent dans la bouche des personnes interviewées, que l'on nous repasse sans cesse en boucle? Pratiquement tous parlent de la nature qui reprend ses droits, ce qui correspond bien à la sagesse populaire, derrière laquelle se rapprochent naturellement les hommes rendus impuissants face à leur environnement naturel, à ses moments limites. C'est bien pratique de penser ainsi. Pourtant, elle n'est pas la nature, car elle n'agit que pour son propre compte, en toute impunité. Quand elle a une idée de destruction en tête, rien ne peut l'endiguer. Je la pense même assez intelligente pour vouloir liquider le plus de gribouilles possible sans laisser de traces. Mon intime conviction étant ne peut plus nette, chère Ariane, j'ai décidé de lutter pied à pied contre elle, ne serait-ce qu'en rompant avec cet état d'anxiété chronique dans laquelle elle me maintient depuis bientôt 15 jours. J'ai repris ma vieille boîte d'Effexor, histoire de renouer avec le moral, ce qui ne l'empêche pas pour autant de continuer à me hanter la nuit dans des cauchemars horribles où il faut sans cesse lutter contre l'hydre de Lerne. Tu imagines, décapiter l'hydre de Lerne, c'est le travail de toute une vie, à moins de s'appeler Héraclès et d'être capable, avec un petit coup de pouce divin, de trancher la tête immortelle. Voilà encore une façon pour elle de me montrer avec ironie que je ne suis qu'une pauvre gribouille mortelle face à ses propres molécules d'immortalité. Malgré tout, à contre-courant, je crois aux vertus indépassables de la pensée déductive. Et je dois te dire, c'est un secret qui doit rester entre nous, que mon enquête personnelle m'a mené à établir un lien entre la mort de Gribouille et l'inondation de la propriété d'un riche exploitant de Saint-Béat, un certain Auguste Clarté. Je n'ai pas la présomption de me prendre pour Sherlock Holmes, mais je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre cette meurtrière et cette Auguste Clarté, dont la réputation sulfureuse d'homme cupide et violent m'est apparemment plus à faire. J'imagine très bien cette saleté avoir commandité la Garonne afin de nettoyer les granges de ce grand propriétaire chargé d'immondices, que le fleuve a ensuite consciencieusement charrié, transformant les champs en aval en véritables dépôts d'ordures, où j'ai découvert une fourche qui surnageait comme par hasard mystérieusement au milieu des miasmes. A-t-elle voulu punir cette autre gribouille également, qui me semble d'ailleurs être plus fripouille qu'autre chose? A-t-elle voulu mettre fin de façon symbolique à l'activité d'un homme qui, dans sa course effrénée à la production, en vient de plus maîtriser les immondices qu'il produit derrière lui? C'est encore malheureusement l'histoire de notre civilisation, après la métaphore des écuries d'Augias. Mais enfin, dis-moi, de quel droit pourrait-elle décider de la vie ou de la mort d'un homme? Voilà encore un mystère à son sujet qu'il me faut éclaircir au plus vite. Ma vie ne semble décidément ne plus tenir qu'à ton fil. Dans l'espoir sans cesse renouvelé, d'avoir très bientôt de tes nouvelles, chère Ariane. Et là, c'est le dernier message qui est donc de Hector Loudet à donc, Ariane, qui s'appelle Madame Galena. Donc ce message date du 10 juin, donc 2 jours plus tard. Madame Galena. Je me permets de vous adresser ce message à la demande expresse de ma collègue, la sous-lieutenante Ondine Aiguevive, qui a été admise le 8 juin dernier à la maison de repos de Cap-Verne pour un mois. Elle est désolée de ne pouvoir vous adresser elle-même ce message, en espérant vous revoir bientôt, dès que son état de santé le lui permettra. Pour ma part, j'ai le plaisir de vous annoncer que Madame Ondine Aiguevive a été promue au rang de lieutenant de gendarmerie, pour récompense de ses bons et loyaux services dans la commune de Saint-Béat. Sans doute avez-vous appris, à travers la presse, le rôle essentiel qu'a joué notre amie dans l'enquête sur le meurtre de Guy Burgos. Grâce à elle, nous avons pu identifier l'arme du crime, la fameuse fourche découverte par ses soins, et qui s'est avérée, après enquête de la police scientifique, appartenant effectivement à Auguste Clarté, comme elle l'avait su l'odorer. Cette sombre histoire nous a été ainsi dévoilée par l'interprétation limpide de Madame Aiguevive, confirmée ensuite par les aveux de M. Auguste Clarté, qui a reconnu avoir tué Guy Burgos à coups de fourche avant de le précipiter dans la Garonne. Guy Burgos avait été employé par Auguste Clarté pendant la saison d'été période durant laquelle il avait découvert comment son employeur arrondissait ses fins de mois en se faisant payer au noir des baux ruraux abusifs par les éleveurs du canton. En possession d'un document compromettant, l'exploitant, Guy Arias, tenta donc de le faire chanter sans passer qu'il y laisserait sa vie. Pour finir, je vous transmets un message que Mme Aigueville m'a confié pour vous. Cher Ariane, comme tu peux le constater, c'est donc le dernier message, l'erreur est bien humaine. Ce n'est donc pas elle la responsable du meurtre de Grimouille. Malgré tout, il nous faudra néanmoins rester vigilants, car à mon avis, elle a encore plus d'un ressac dans son sac, la diablesse. La vie ne tient toujours qu'à un fil, même si rien ne vaut la vie sans elle. Je t'embrasse à très bientôt, j'espère. On dit non. Voilà, c'est terminé.
Merci à vous.
Ce texte ne veut pas aussi dire la gendarmerie. Si on avait mis que les constats.
Bon, j'écris avec Diane cette scène-là parce que j'aime beaucoup. Alors, elle est courte. Hein. C'est la machine à sous. Alors, la machine à sous. C'était une machine à sous d'un modèle fort courant. J'avais connu tant de machines de ce genre que jamais je n'aurais eu l'idée de m'y intéresser. D'ailleurs, je n'appréciais guère l'endroit où on l'avait placée. Un café luisant dégoulinant d'art moderne, trop chatoyant pour ne pas être plus sinistre qu'une cave. Un matin cependant, parce que j'étais particulièrement désœuvrée, je m'approchais de la machine. Un client y jouait, la secouant spasmodiquement. Il manqua d'assez peu une partie gratuite, tenta de nouveau sa chance. Puis il abandonna en murmurant que décidément, il n'arrivait pas à dépasser le chiffre qu'il atteignait chaque fois. Je fis 4 parties. À la 3e seulement, je compris que moi non plus, je n'arriverais pas à dépasser un certain chiffre. Mais je n'arrivais pas non plus à totaliser un nombre de points inférieur à ce chiffre. 41 255. La machine, avec une obstination de maniaque, indiquait invariablement ce chiffre en fin de partie. Était-il difficile de croire à quelques défauts techniques, puisque ce total n'était pas celui qu'avait obtenu l'autre joueur? Je m'appliquai à bien jouer, exigeant de chaque bille son rendement maximum. Puis je me laissais aller à lancer plusieurs billes en même temps, jouant avec la plus parfaite désinvolture. Rien n'y faisait, rien ne changeait. En fin de partie, j'obtenais toujours le même total, 41 255. Un mois plus tard, alors que j'avais complètement oublié cet incident, je tentai un nouvel essai. En vain cette fois encore. J'obtins 3 fois de suite le chiffre 41 255, qui est un nombre. Comme il fallait totaliser 45 000 points pour avoir droit à une partie gratuite, j'insultai la machine et je déclarai au patron du café que sa machine était truquée. « C'est ce que tout le monde me dit, » répondit-il avec le plus grand calme, sans même lever les yeux. La signification exacte du chiffre ne m'apparut que plus tard, un peu trop tard, il faut dire. Mais comment l'oublier? 41 255 ou 41255, ce que j'avais appris, ce que j'avais pris, ce que tous les joueurs prenaient sans doute pour un total de points, ce chiffre correspondait en réalité à une date, le 4 décembre 55. 4 plus 55. Que dire? Comment le prouver? Mais c'est bien le 4 décembre 1955 que je mourus.
Ça t'a des machines, ça.
Je te l'offre, c'est bien.
Waouh! Génial! Merci pour le texte. Super!
Jacques Stendhal, il n'aimait pas écrire des romans. Il trouvait que la nouvelle, c'est vraiment le format. Même les nouvelles sont trop longues, je trouve, à lire. Je me rends compte que c'est. Je trouve que les nouvelles de Stendhal, c'est.
Elle est pas mal de l'illustration.
Ah oui, alors. Mais c'est une photo, c'est quoi?
C'est un montage.
C'est un montage. Hein. Tout est absurde. Hein. Ses parents avaient été déportés.
Bon, ben, il faut continuer à faire des nouvelles. Hein.
Et oui, oui, oui. Non, je suis partie sur Alep en ce moment parce qu'on nous parle beaucoup d'Alep.
Oui.